Alors, il y a marqué 81 sur la photo que je t'ai envoyée. Il n'y aura peut-être pas marqué 81 sur la photo qu'on va mettre dans les notes, parce que je vais en mettre une, peut-être avec moins de bordel. La photo montre pas ça, mais j'aime bien avoir le moins de choses possible sur mon bureau.
J'avoue, j'ai rangé pour la photo quand même. Salut Maïeux.
Salut Dauro.
Aujourd'hui, on va parler de bureaulogie, c'est-à-dire de l'art d'organiser nos bureaux, disons ça comme ça. On est installé à nos bureaux pour cet enregistrement, donc ça tombe bien, ce sera un peu méta aussi. Et évidemment, on boit du thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ?
Dans le dernier épisode, je buvais un Jucro. Aujourd'hui, je bois un Jucro vert.
Jucro, c'est un thé de région, c'est ça ?
Je ne sais pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que c'est un thé qui vient, dans le cas de celui que je bois, du Jirisan, qui est une montagne de Corée du Sud. Le seul Jucro que je connaissais, c'était un thé noir, qui a ses notes très chocolatées, très très présentes. Et celui-ci, c'est un vert, qui est, alors, pas du tout chocolaté. Il me rappelle un peu le Longjin, on est vraiment sur des notes plus fruits à coque, avec un peu de légumes verts derrière, ce type de choses. Il n'y a pas le même effet que le Jucro noir, qui est quand même très spécial, je trouve. Mais voilà, c'est toujours assez intéressant, je trouve, de découvrir des choses qu'on ne connaît pas.
Sur cet ordre d'idée-là, ce n'est pas ce que je bois aujourd'hui, mais j'ai découvert qu'il y avait des Earl Grey verts, alors que d'habitude, l'Earl Grey, c'est à base de thé noir.
C'est vrai.
Il faudrait que j'essaie une fois, je suis curieux. Même si je ne suis quand même pas trop Earl Grey, bergamote, tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Mais...
Pareil, ce n'est pas des notes que j'ai envie de boire dans mon thé, je crois. Et toi, qu'est-ce que tu bois ?
Je bois un chai latte, un thé noir mais très parfumé avec des épices qui vient d'Inde. Latte parce qu'il y a du lait. C'est assez une coutume de le boire comme ça en fait. Tu fais infuser ton thé d'abord et après tu rajoutes du lait et du sucre. Moi j'utilise là du lait condensé parce que c'est plus rapide comme ça. Donc c'est très sucré forcément vu que je rajoute du sucre. Mais en plus, il y a toutes ces notes cannelle, cardamome, clou de girofle peut-être, anis aussi j'imagine.
Et thé parfumé, j'ai beaucoup de mal, en fait, la plupart du temps, je trouve.
Tout ce qui est genre thé à la rose ou bien aux fruits rouges, ou voilà, c'est vraiment pas mon truc. Le chai, c'est une des rares exceptions.
On va parler de bureau aujourd'hui.
Oui, j'ai découvert il y a quelques temps, c'est un journaliste de Canard PC, qui est un magazine de jeux vidéo, qui, pour rire, s'est dit « Envoyez-nous les photos de vos bureaux et je vais les juger, tout ça sur un ton un petit peu humoristique. » Mais il y a un fond qui reste sérieux parce qu'il part quand même du postulat de se respecter soi-même, d'avoir un environnement de travail ou de loisir d'ailleurs, qui soit un petit peu agréable et il faut arrêter de se mettre sur une petite tablette dans un coin du salon avec une chaise en bois pas bien, voilà, et d'avoir des mauvaises positions. Et... Après, il a en plus un petit côté OCD assez fort chez lui, de, il faut que tout soit bien rangé et bien aligné et qu'il y ait des lignes élégantes et ce genre de trucs. Mais c'est vrai que sur le fond, ça reste très bien d'avoir un environnement de travail qui est agréable. Donc, il a appelé ça la bureaulogie parce que c'est rigolo. En vrai, ça prend un petit peu et ça touche un petit peu des gens aussi d'essayer d'avoir des places de travail et de loisirs agréables, quoi. On s'est envoyé nos photos respectives de nos bureaux pour qu'on puisse voir comment on est. Je te laisse commencer par un petit peu expliquer ton espace de travail.
Un peu tout ça, moi, je l'ai principalement connu via, au final, l'ergonomie du travail. À force de travailler tout le temps... assis devant un écran avec la souris dans la main, etc. J'ai pas eu des douleurs qui étaient liées directement à la position au final, mais il y a eu un peu plein d'autres choses dans ma vie qui ont fait que j'avais des douleurs dans le bras droit. Donc j'ai commencé un peu à améliorer les choses. Ça a principalement démarré par des claviers, essayer de trouver un clavier plus ergonomique, puis ensuite je suis passé à un bureau debout. J'ai commencé à tester aussi des souris différentes. À la longue, ça s'est transformé en l'état actuel des choses, qui est que mon bureau, c'est un bureau assis, debout, qui, dans mon cas, est motorisé.
Pour les gens qui ne connaissent pas, juste un bureau assis, debout, ça veut dire qu'on peut régler la hauteur du plateau.
Voilà.
Pour qu'on soit capable d'être en même temps assis devant et en même temps debout. Le plateau est à la bonne hauteur quand on est debout.
J'en avais pris un motorisé principalement parce qu'ils ont des boutons de mémoire, donc comme ça je peux le régler. Assis, c'est à hauteur, debout, c'est à hauteur, et puis c'est réglé. Mm. Sous mon bureau, j'ai un plateau slash tiroir qui se tire et se range, sur lequel j'ai le clavier et la souris, pour avoir le tiroir à hauteur, quand je suis assis, en tout cas des jambes. Et le bureau légèrement plus haut, parce que comme ça, l'écran est à la bonne hauteur. Mmh. Sur la photo que toi, tu vois, j'ai une souris classique, principalement parce qu'en ce moment, je joue beaucoup.
Ouais.
J'ai ressorti cette souris et je ne change pas régulièrement. Mais en fait, la plupart du temps, j'utilise un trackpad, comme sur un ordinateur portable.
T'as qu'un écran, ça c'est un truc qu'on peut préciser, mais je vois un iPad devant.
J'utilise de temps à autre mon iPad comme écran secondaire.
Tu te concentres sur un seul écran autrement.
Pendant longtemps, j'avais deux écrans, voire même trois avec l'écran du laptop. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que ces histoires de multi-écran, c'est un peu une justification pour avoir plein de trucs. Moi, je trouve que ça m'aide pas du tout à me concentrer sur ce que je fais. L'usage que moi j'en avais, c'était que je mettais un peu des applications secondaires sur mon deuxième ou troisième écran. Mais ces applications, elles sont secondaires pour une raison, c'est qu'en fait, j'en ai pas besoin tout le temps. Donc, si j'en ai pas besoin tout le temps et que j'en ai particulièrement pas besoin quand je suis en train de me concentrer, c'est que j'ai pas besoin de l'écran.
J'en discutais il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a trois écrans et qui dit qu'il peut pas se passer de ces trois écrans. Je répondais non mais si. Je peux comprendre, il y a des fois des cas d'usage de métier.
Oui.
Si tu dois faire du monitoring par exemple, bah oui, il faut en avoir partout. Voilà. Mais autrement, la plupart du temps, un écran ça peut suffire, éventuellement deux, mais je pense que plus que deux, c'est assez rare d'avoir ce cas d'usage.
Si on fait du multi-écran, il faut que ce soit pour une seule et unique tâche sur les deux écrans. J'ai le montage vidéo en tête, par exemple. J'imagine qu'avoir plusieurs écrans pour du montage vidéo, c'est quand même pratique, parce que c'est vrai qu'avoir la timeline en gros, le rendu sur l'écran à gauche, par exemple, ou des choses comme ça, ça permet d'avoir la place de travailler.
Ouais.
Là, on est vraiment sur une tâche en cours. Le problème que j'avais, moi, c'est qu'à la longue, je commençais à faire du multitâche. Et quand j'ai voyagé pendant un an et demi, où là, bah, j'étais confiné à un laptop de 13 pouces et c'était tout, j'ai un peu réalisé au final tout ce que je viens de dire avant. Quand j'ai qu'un seul écran, avec uniquement ce que je suis en train de faire, bah, évidemment, je suis beaucoup plus sur la tâche. Et j'ai un ami qui a eu la même chose récemment, qui était un gros croyant, on va dire, du double écran, qui a voyagé pendant 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Il a dit, ah ouais, je me suis rendu compte en voyageant que j'avais quand même tendance à avoir beaucoup plus de focus sur ce que je faisais. Alors que par rapport à chez lui, avec ses deux écrans, il avait l'impression quand même d'être plus dispersé.
Pour en revenir sur ton bureau, tu as un seul écran, l'iPad comme éventuel écran secondaire de temps en temps.
Sur l'iPad, ce que je mets, c'est mes notes. Ça me permet d'avoir sous les yeux les références en cours dont j'ai besoin pour la tâche que je suis en train de faire. Je l'allume que s'il y a besoin, en fait.
Pour le reste, ta machine, c'est un laptop qui est quand même bien posé sur le bureau. Tu utilises quoi ?
C'est un MacBook Pro. Pour l'instant, je ne suis pas très content de la manière dont je branche les trucs dessus, parce que j'ai beaucoup plus de choses à brancher que de ports disponibles. Parce que bon, évidemment, ce n'est pas un ordi qui est fait pour être le hub du bureau d'une certaine manière, même si je trouve qu'ils sont suffisamment puissants et bien faits pour. C'est un peu le bordel de câbles un peu partout.
Le juge te jugerait de « c'est mal rangé les câbles, aïe 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 ».
Ouais, clairement.
Il faut trouver des solutions.
Surtout qu'à une époque, je gérais des petits data centers, on va dire. J'ai un peu tout ce qu'il faut pour enrouler les câbles, mais là, le problème que j'ai, en fait, c'est un peu plus un problème d'accès et de câbles que je passe mon temps à brancher, débrancher. Et j'ai pas encore pris le temps d'aller me chercher un hub et un truc que je peux avoir constamment en accès facile et surtout passer la plupart des câbles sous le bureau aussi.
Dernier truc que tu as sur le bureau, je vois sur le côté, tu as une sorte de bac pour tenir des choses.
À gauche, j'ai 3 bacs qui sont très bordéliques en ce moment. C'est mon inbox physique. Quand je reçois des lettres ou des choses comme ça, je les mets dans le bac du haut. J'ai le même système avec mes emails. J'ai une inbox, un dossier que j'appelle follow-up, des choses que moi, j'ai à faire, et un dossier qui s'appelle en attente. Et là, c'est des choses où j'attends les autres.
Sur la droite, tu as un truc grillagé qui est pendu au bureau.
C'est un truc de cuisine, je crois. C'est un peu pour mettre les trucs dont j'ai besoin régulièrement, mais pas tout le temps. Donc, il y a principalement des câbles. Et il y a mon surplus de câbles du micro, parce que j'ai un câble XLR de 2 mètres, je crois, alors que j'ai pas du tout besoin de 2 mètres. Au moment où j'ai eu besoin d'en acheter, j'ai trouvé que ça.
Je vois.
Je mets aussi un autre clavier que j'ai. J'ai un petit clavier Bluetooth. Il y a mon trackpad aussi, dans ce petit truc grillagé.
C'est l'accès rapide pour...
Les trucs un peu en... que t'as pas besoin tout le temps, mais en même temps, si tu vas le ranger au fin fond d'un placard ou un truc comme ça, c'est pas pratique non plus. Sur la partie droite de mon bureau, j'ai une... la grosse lampe blanche qui est sur un bras. C'est une lampe que j'avais achetée quand je m'étais remis un peu à faire de la peinture sur figurine.
Elle t'éclaire le mur derrière pour faire l'éclairage.
Je la mets sur le mur, comme ça, ça diffuse bien. Mais c'est vraiment une lampe qui est très blanche. Moi, je suis habitué à ça, mais elle peut être assez désagréable. C'est pratique aussi, je trouve, pour le traitement photo le soir, parce que ça me permet d'avoir une pièce qui est proche de la lumière du jour. Comme ça, j'ai pas un peu cette différence de lumière qui fait que bah, tu traites la photo de manière un peu différente.
Ouais.
Et sinon, j'ai une lampe de luminothérapie. Le rectangle, je sais pas si on voit sur la troisième photo que j'ai mis, où il y a marqué Lumi dessus. Ça, c'est une lampe de luminothérapie, donc c'est une lampe qui est vraiment très très puissante, au point où quand elle est allumée, la regarder en face, ça peut faire mal aux yeux. Je m'en sers principalement en hiver, quand je me lève le matin et qu'il fait vraiment sombre. Ça permet de recaler un peu le cycle circadien. Mmh. En termes de ressenti, franchement, je ne sais pas si ça marche pour de vrai. Mais c'était ma somnologue qui m'a dit que si, il y avait des recherches récentes qui montraient que ça avait un effet positif et que ça permettait de recaler le rythme circadien. Comme j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, etc., ben, je me suis dit, bon, allez, on va essayer ça. Et...
ça peut aider, quoi. Dernière question vis-à-vis de ton bureau aussi. Là, tu es en mode debout. Mais du coup, tu as une chaise quand même ou pas du tout ?
Je l'ai poussée pour la photo. On la voit vaguement à droite sur la photo. Elle est OK. C'est une bonne chaise dans le sens où c'est une chaise quand même à 200 balles, je crois. Mais ce n'est pas ces trucs hyper ergonomiques. À vrai dire, sur la chaise, moi, je pense que ça me suffit. Parce que je passe quand même de plus en plus de temps debout. Parce que maintenant, j'ai un tapis de marche. Et en fait, maintenant, je marche aussi pas mal quand je travaille. Je pense qu'on va discuter de ça un peu plus après.
J'ai des questions par rapport à ça après. Ouais.
Le dernier truc que j'ai sur mon bureau, où tu vas avoir des questions, c'est à droite de la lampe de luminothérapie. C'est un moniteur de qualité de l'air.
Ah, OK.
C'est quelque chose que j'ai acheté très récemment. J'ai un ami qui utilise ça depuis très longtemps. On ne se rend pas compte, mais le CO2 a vraiment un gros impact cognitif. Et il monte beaucoup plus vite qu'on se le dit. Dans la pièce où je suis, qui fait 15 mètres carrés à peu près, je crois, tout seul, en travaillant, c'est-à-dire quand ma femme n'est pas là, parce que ma femme a son bureau juste à côté aussi, il faut que j'ouvre la fenêtre 3 à 4 fois dans ma journée de travail pour amener le taux de CO2 à un taux qui n'a pas d'impact, en fait.
Ouais, quand même, ouais.
Mon travail, c'est de réfléchir, donc c'est quand même mieux si je réfléchis bien.
Et en plus, c'est avec un geste qui est extrêmement simple, parce qu'il te suffit d'ouvrir la fenêtre.
Tu ouvres la fenêtre, 10-15 minutes, s'il y a du vent, moins. Par contre, en hiver, ça devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas trop comment on va gérer ça quand il fera 0 degré dehors. Mais donc voilà, c'est un moniteur de qualité de l'air qui a, il fait pas que le CO2, il fait aussi tout ce qui est les microparticules PM25, les composés chimiques volatiles, l'humidité et puis la température. C'était principalement pour le CO2, puis par curiosité sur toutes les autres particules et ce type de choses aussi. Et toi, j'ai déjà des questions parce que j'ai des objets étonnants sur ton bureau.
Mon bureau, c'est quelque chose qui a été monté un tout petit peu artisanalement. J'ai acheté des pieds qui sont mobiles et motorisés pour faire un bureau debout. Mais il n'y avait que les pieds. Donc après, j'ai aussi été acheter un plateau en bois que j'ai poncé, verni et vissé sur ces pieds-là. Ce qui va certainement répondre à une de tes questions, c'est qu'est-ce que c'est le truc gris un peu ovale, un peu soucoupe volante qui est par terre ?
C'est ça.
C'est en fait une sorte de ballon un peu mou. Je me mets dessus et c'est pas stable. Donc, tu es obligé de faire des micro-mouvements en permanence. Et ça évite d'avoir une mauvaise position. Enfin, ça encourage d'avoir une meilleure position.
Ouais, ça évite vraiment d'être complètement statique.
Et en plus, ça fait travailler un peu les chevilles, travailler un peu les mollets, donc c'est pas mal.
Tu te mets debout dessus.
Je me mets debout dessus, ouais.
Et tu l'utilises sur ta chaise aussi, en étant assis ?
Ça peut me servir de repose-pied quand tu es assis.
On a quelque chose de similaire, nous, prévu pour être mis sur une chaise. Mais en même temps, tu peux aussi te mettre debout dessus, ce genre de choses.
J'avais eu un truc à mettre sur une chaise pour... me pencher un peu et faire que je me tiens mieux. Mais en fait, je passais mon temps à glisser et du coup à me tenir très mal.
Les trucs triangulaires, là, c'est ça ?
Ouais, ouais, ouais.
Là, ça a vraiment la même tête que le tien. L'idée, c'est que ça te permet de pas avoir un ballon. mais d'avoir quand même les bénéfices d'être assis sur un ballon parce que tu dois quand même te tenir droit du coup et tu peux pas trop t'affaler sur ta chaise.
Une note de mon kiné qui me disait qu'il faut aussi faire gaffe quand on est debout de pas rester debout trop longtemps parce qu'on a tendance à se fatiguer et à se tenir mal après. Donc il disait que c'est mieux de changer de position entre assis et debout toutes les demi-heures plutôt que de rester 2 heures debout et de se péter le dos après.
Des fois, il y a ce réflexe de s'appuyer sur le bureau et d'être un peu plié en deux. Ça, c'est pas bon. Je peux rester longtemps debout, mais généralement, je vais de toute façon bouger parce que je me rends compte que je réfléchis mieux si je bouge un peu. Si en plus j'ai de la musique ou ce genre de choses, ça peut m'arriver de vraiment bouger.
Alors la chaise, justement, là j'ai une chaise de chez Ergo Human, donc c'est une marque de chaises ergonomiques assez chère pour le coup. Hein. Là j'ai tout un historique d'avoir des chaises plutôt de qualité, qu'au fil des années, j'augmente un peu de gamme à chaque fois. Et là je pense que je suis dans le tout haut de gamme des chaises. Moi ça fait partie des trucs super importants, il faut bien être assis sur son bureau et dans la mesure de ses moyens, évidemment, prendre les chaises les plus adaptées par rapport à son budget, mais vraiment être sur des chaises faites pour le bureau.
Ouais.
Autrement, sur le plateau du bureau lui-même, j'ai mon clavier qui est un clavier mécanique, un repose-poignet, une souris verticale. Tout ça, c'est pour faire que je sois bien installé et que j'ai pas mal au poignet, que j'ai pas mal au bras. Et alors, c'est très récent maintenant, j'ai un tapis de bureau. C'est-à-dire, c'est comme un tapis de souris, mais c'est gigantesque. Je me suis toujours dit que c'était nul et que ça servait à rien, jusqu'à ce que j'en ai un. Déjà, ça amène un petit peu de déco, c'est sympa. Mais c'est trop bien, parce que ta souris, elle glisse vachement mieux. C'est plus agréable pour poser tes poignets dessus, voilà. Et ça se nettoie en plus assez facilement. Donc, non, c'était très agréable. Je recommande, alors qu'au début, je ne voyais pas l'intérêt, parce que ça marchait très bien, même le bureau.
Ouais.
Sinon, j'ai deux écrans. Mon écran principal qui est en face de moi et mon écran secondaire qui est sur la gauche. L'écran principal, alors qu'il est ajustable en hauteur, il n'est quand même pas assez ajustable en hauteur, donc il est posé sur deux cartons.
La plupart sont trop bas, en fait, parce que c'est assumé que tu es censé, comme ce que moi j'ai, à savoir avoir un tiroir pour ton clavier et que le bureau est plus haut. Et que donc, parce que le bureau est plus haut, il y a la bonne hauteur. Il y a beaucoup de gens qui ont leur clavier ou leur souris sur le bureau, donc il faut que ton bureau soit plus bas pour être à la bonne hauteur par rapport à tes bras, et donc les écrans ne sont jamais assez hauts.
En termes de bureaulogie, si on voulait faire les choses bien, et aussi en termes d'ergonomie du coup, si on voulait faire les choses bien, il faudrait que je remplace le pied de l'écran par un pied VESA, donc avec les montures normales, voilà. Sauf que comme j'ai un écran un petit peu particulier parce qu'il est prévu pour le graphisme et la photo, le pied il est vraiment intégré à l'écran, donc je ne peux pas enlever le pied lui-même.
Okay.
Alors que mon écran secondaire, qui est à gauche, j'ai enlevé le pied de l'écran original, j'ai acheté 20 balles une monture VESA qui a un pied complètement réglable en hauteur, j'ai pu poser l'écran dessus, je peux même faire pivoter l'écran, ce qui est d'ailleurs mon cas, mon écran est à la verticale, l'écran secondaire est à la verticale, l'écran principal lui est tout droit. Donc c'est vraiment un truc que je recommande, c'est de monter ces écrans sur des montures VESA, soit ça peut être un pied statique comme j'ai, soit ça peut même être un bras et du coup on peut l'ajuster où on veut.
Ouais.
C'est vraiment un bon truc.
Pourquoi il a la verticale du coup, ton écran de gauche?
Un peu comme toi, j'ai tendance à dire que trop de multi-écrans, c'est pas super. Mon écran principal, il est devant moi, c'est là que je fais tous mes trucs. Mon écran annexe, c'est plutôt pour mettre un petit peu de bordel, comme, je sais pas, mon lecteur de musique par exemple. C'est pas un truc que j'ai besoin d'avoir dans les yeux. Mais c'est aussi pour mettre des références, donc des choses que je veux plutôt lire. Il y a plus de place à lire à la verticale.
Ouais.
Je ne veux pas des lignes de texte qui sont trop longues, donc je n'ai pas besoin d'avoir un écran à l'horizontale. Ça me permet peut-être d'avoir de la doc ou des références comme ça. Je
n'ai jamais trop essayé les écrans verticaux. Je sais qu'il y a pas mal de développeurs qui utilisent des écrans verticaux pour la même raison que tu viens de dire.
J'utilisais ça pour mes mises en page, en fait. Sur mon écran principal, à l'horizontale, je suis en train de faire ma mise en page. J'ai la page elle-même et l'interface qui est sur les côtés, donc l'écran horizontal va très bien. Sur l'écran secondaire qui est à la verticale, j'avais mon texte Word, par exemple. Et du coup, je peux voir tout le texte que je suis en train de mettre en page. Pour faire les allers-retours, c'était beaucoup plus facile.
Je pense que pour les questions de mise en page et graphisme, ça a plus de sens, en tout cas, que pour du code brut. Dans mon contexte, je trouve qu'il y a moins de bénéfices. Mais en même temps, je connais des gens qui sont aussi des développeurs et qui utilisent des écrans en mode vertical.
Un autre usage sympa, c'est pour la photo. Quand je veux regarder des fois en plein écran une photo verticale, ce que je peux faire, c'est mettre la photo verticale sur l'écran secondaire à la verticale, donc je la vois en grand.
C'est peut-être quelque chose qui me convainc plus, en fait. C'est vrai que je n'avais pas réalisé. La vaste majorité de mes photos sont en portrait.
Et autrement, ce qui me reste sur le bureau, c'est le micro pour tout ce que je fais quand je cause. En cas de podcast comme maintenant, je le déplace, il est vraiment devant moi pour avoir la meilleure prise son possible. Mais autrement, il reste entre les deux écrans, ça suffit.
Okay.
J'ai une lampe sur le côté pour m'éclairer indirectement le mur.
Ah, donc c'est une lampe.
C'est un truc Ikea, voilà. Je peux régler l'intensité avec une télécommande qui est cachée derrière l'écran secondaire, là, en fait. Ça m'éclaire le mur derrière moi pour avoir une lumière indirecte la nuit qui est assez légère, voilà. Puis mon ordinateur, c'est un Mac Mini, ce qui change de l'ordinateur que j'avais avant où j'avais une gigantesque tour. Je ne comprends pas aujourd'hui comment, à moins d'avoir des usages très spécifiques, mais comment tu peux avoir un gigantesque ordinateur sur ton bureau, parce que même pour des PC, tu as maintenant des boîtiers qui sont de taille réduite. Voilà.
En fait, il y a un autre ordi sur mon bureau qu'on ne voit pas si on ne zoome pas sur la photo. Et c'est un PC qui n'est pas ultra réduit à cause de la carte graphique qui est énorme, mais il fait la hauteur des blocs où je range mes feuilles, mais il fait 50% de leur largeur. Cet ordi ne me sert pas à grand-chose, en fait. Il faut que je m'en débarrasse, il faut que je vende.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut privilégier des... Parce que c'est possible maintenant d'avoir des performances suffisantes dans des espaces réduits. C'est tellement plus agréable que d'avoir des tours gigantesques. Là. Ça, c'est vraiment fini. Ça
prend moins de place, moins de poussière. Ça fait souvent moins de bruit aussi. Mais oui, j'avais même pas vu ton Mac Mini. En fait.
Ben oui.
À mon dos, je me suis dit, mais attends, il est où en fait son Mac? Il faut zoomer sur la photo pour le voir.
Il est à côté de la lampe, ouais. Et puis qui se voit pas trop derrière le micro, sous la petite peluche de déco, là. Enfin, c'est un truc en crochet, en fait. Il y a un disque dur externe, parce que le Mac Mini, il a pas assez de place. Puis j'ai un casque. Je l'ai pas pris en photo. Maintenant, j'ai imprimé en 3D un truc pour accrocher mon casque sur le bureau, un peu de manière plus esthétique que ce qui pendouille, mais j'ai encore un casque audio.
Ouais, moi, ça fait des années que je me dis que, un peu comme la grille, le casier grillagé que j'ai en dessous, à gauche, je comptais mettre un crochet en dessous. Pour accrocher le casque. C'est aussi pour ça que j'ai un bureau assez large, c'est parce que ça me permet un peu d'avoir tous ces trucs, on va dire, qui me servent tout le temps et qui prennent un peu de place. Les blocs, ça prend quand même pas mal de place. C'est pour ça que mon MacBook, il est aussi en long au fond du bureau, ce qui fait que techniquement, il prend pas de place, quoi. Je l'ai pas mis à plat ou ce genre de choses. Parce que justement, j'aime bien pouvoir me dire, si je veux scanner mes négatifs, par exemple, il faut que j'ai vraiment la place de pouvoir tout poser, tout le bordel dessus, etc. Donc j'aime bien l'idée d'avoir un grand bureau avec que des choses un peu sur les bords. Parce que je trouve que ton écran vertical, donc à ta gauche, il est quand même très proche et il te coupe énormément du bureau. Ça me surprend. Parce que du coup, cette section à gauche, là je vois qu'il y a des lunettes et un livre posé dessus.
C'est mon plumier, c'est mes plumes et stylos. Et
Ah oui, d'accord. Mais du coup, tu t'en sers à quoi de toute cette zone de bureau?
La prévision, dans l'idéal, c'est justement, je peux écrire des choses ici. Ça fait un peu le coin écriture. Ça arrive de temps en temps. La réalité, quand je range pas un peu le bureau pour la photo, c'est qu'il y a quand même pas mal de papiers qui traînent en mode, il faut les classer, ils sont posés là. Alors que le vrai classement définitif, j'ai les classeurs qui sont sur l'étagère qu'on voit un tout petit peu sur la droite du bureau.
Je vois. C'est quelque chose aussi que j'ai essayé de faire sur le mien. Pareil, la taille fait que je peux décaler ma chaise complètement à droite si j'ai la place. Et j'ai un peu un espace. Mais en fait, je le fais jamais. Ce que je me suis dit à la place, c'était plutôt d'essayer de cacher l'écran et dans le petit truc grillagé, il y a une écharpe un peu qui traîne. Ça, c'est pour que je la mette par-dessus l'écran quand j'ai vraiment pas envie d'être tenté d'allumer l'écran. En pratique, en fait, souvent, j'écoute de la musique ou des choses comme ça. Donc, en fait, je mets juste l'application de musique en plein écran et ça me rappelle que je suis pas censé regarder l'écran, quoi.
Une différence que je note entre nous deux, moi, j'ai tendance à avoir quand même mon écran qui est assez proche de moi par rapport à la profondeur du bureau. Alors que toi, tu mets vraiment ton écran loin et ce qui te laisse de la place pour poser des trucs devant. Comment ça se fait? T'as pas envie de voir mieux les choses? Enfin, c'est moi qui fais le vieux, j'ai envie d'avoir des gros textes.
Je compense en fait avec la taille de l'écran finalement, qui me permet quand même d'avoir des polices assez grosses.
C'est un combien de pouces en fait?
27.
Ah, moi j'ai un 24.
24, ça aurait été trop petit pour le mettre aussi loin. avant, j'avais un 24, avant que je parte en voyage et que je le vende. Et ça faisait un peu partie du problème parce que je mets l'écran loin pour éviter que, entre autres, la luminosité soit trop violente. Mmh. Quand j'avais le 24 pouces, ça demandait à vraiment mettre une police qui était vraiment grosse. Et là, j'avais vraiment, il me restait très peu d'espace sur l'écran, en fait. Et là, j'ai des amis qui m'ont dit qu'eux, ils sont même passés à des 30 pouces.
J'allais venir à ça.
Pour vraiment avoir la place. Et c'est vrai que quand j'ai acheté cet écran, quand on est revenu de voyage, je m'étais dit que 27, c'était suffisant. Et globalement, c'est suffisant. Mais maintenant, je verrai l'intérêt pour un 30. Mais bon, j'ai vraiment, à part gagner un peu plus de place, j'ai pas vraiment de bonne raison de changer parce qu'il est vraiment très, très, très bien, mon écran. À la limite, la seule chose qui pourrait me faire changer, c'est avoir un écran plus juste en termes de couleur pour la photo, justement. Si celui-ci me lâche, peut-être que je considérerais passer à 30 pouces pour vraiment là avoir un peu plus de place. Ouais, mais même en fait, je sais pas trop. Faudrait que j'essaye en fait. Faudrait que j'aille chez quelqu'un qui a un 30 pouces et que je vois.
Mon écran secondaire en plus, il est vieux, mais vieux. Je pense que j'exagère pas si je dis qu'il a 20 ans. Qu'est-ce que je fais s'il lâche ? J'ai quand même envie d'avoir un peu de deux écrans. Donc je pourrais me racheter un meilleur écran. Parce que mon écran principal, pareil, il a 12 ans. Il deviendrait mon écran secondaire et je me rachète un meilleur écran. Sauf que j'ai un ami qui est ingénieur du son et aussi étalonneur vidéo. Enfin, l'étalonneur vidéo, il fait ça en indépendant. Et son métier principal, c'est d'être ingé son. Et à la maison, sur son bureau, il a un seul écran de, attention, 40 pouces. Que, alors du coup, il place assez loin en profondeur, ouais. Parce que forcément, il a une surface qui est gigantesque. Il peut mettre le texte en gros, il peut positionner plein de fenêtres et énormément de choses d'interface pour faire du montage son, pour faire du montage audio. Tu as besoin de ça.
Là, tu as la place pour ce genre de choses. Quoi.
Et c'est super cool parce que je me disais, mais attends, un 40 pouces, si je le mets à la même distance que je mets mon 24, je vais devoir tourner la tête tout le temps, ça ne va pas être agréable. Et il me dit, mais non, tu ne fais pas ça, tu le mets plus loin. Ah, mais du coup, ce sera trop petit. Ouais, mais tu fais pas ça. Tu fais que le texte est plus grand. Et j'ai vu ces réglages et j'ai fait ah, franchement, je veux pas changer d'écran maintenant parce que je suis plutôt du principe de je veux pas consommer des produits électroniques pour des raisons écologiques.
Exactement.
Mais clairement, si j'ai un des écrans qui lâche une fois, je pense que je passe sur cette solution-là.
Mais c'est un plat ou c'est un incurvé ?
Plat. Parce qu'il voulait pas de l'incurvé, lui.
J'ai essayé les incurvés dans les bureaux de mon boulot. Ils ont des incurvés et j'ai l'impression que rien n'est jamais droit sur ces écrans.
Ouais, moi j'ai de la peine avec
ces... Ce qui est vrai, puisque c'est incurvé. Et souvent, je trouve ça trop grand. Il faut que je tourne la tête quoi, pour voir le bout de l'écran. Là, en termes d'ergonomie, je pense que c'est vraiment très mauvais.
J'aime pas ça. Et précisons aussi, parce que c'est vrai que c'est pas explicite, c'est un 40 pouces, mais comment les proportions, c'est pas un écran ultra large, donc c'est...
C'est un 4 tiers.
C'est pas un 4 tiers non plus. Je crois qu'on n'est pas sur du 16/9 qui est le... En termes de résolution de Full HD, ce serait 1920 pixels sur 1080 pixels. Là, c'est du 16/10, comme mon écran d'ailleurs, principal. Donc c'est 1920 de large sur 1200 de hauteur. Mm. C'est un tout petit peu moins une bande que le truc cinéma. Évidemment, comme il a un 40 pouces, c'est pas cette résolution-là, c'est du 4K, mais là, je sais pas par cœur les trucs. C'est juste que la proportion est effectivement en 16/10 et pas un truc ultra-wide. Parce que pareil, les trucs ultra-wide, tu tournes la tête et c'est pas super.
Ça fait trop bandeau, je trouve.
J'aime beaucoup ce format de 16/10 par rapport au 16/9, qui est le truc le plus courant, en fait, où je trouve qu'on manque un tout petit peu de hauteur, parce que dès que tu as l'interface de ton navigateur qui vient te bouffer les 150 pixels du sommet, il te reste plus grand-chose. Alors que en fait, ça te permet, avec un 16/10, d'avoir le contenu de la page web, par exemple, qui est l'équivalent de ton écran complet des gens qui ont un 16/9 normal. Mmh. Et en plus, tu as l'espace pour poser l'interface de ton navigateur. Quoi.
Mmh. Ouais.
C'est vraiment un petit truc que je préfère comme format. Autant je ne reviendrai pas au 4 tiers d'il y a 25 ans, 30 ans, là. Autant le 16/9, je trouve un peu étroit.
Ça me surprend qu'on est quand même complètement passé au 16/9, 16/10 pour les écrans depuis des années. Mmh. Mais en fait, les interfaces de nos logiciels, elles n'ont pas changé. Et il y a toujours ce côté, on prend le haut pour plein d'informations et ça compresse de plus en plus ce qui est vraiment important en bas. Alors maintenant, ça change un peu quand même. Il y a cette tout, la barre du haut disparaît un peu. J'ai Notion sous les yeux, par exemple. Il n'y a pas cette barre de fenêtre, puis de l'information. Il y a la barre de la fenêtre, elle contient aussi l'information. Donc ça change un peu, mais ce n'est pas très logique quoi, de vouloir constamment profiter de cette longueur pour mettre plein d'infos, alors que le contenu devient de plus en plus compressé. Quoi.
Surtout que ces proportions-là, c'est vraiment issu du cinéma. Oui, c'est mieux que le 4 tiers, hein, je suis d'accord, mais c'est quand même trop étendu par rapport à une interface d'ordinateur, je trouve. D'où, à mon avis, la supériorité du 16 dixième par rapport au 16 neuvième, parce que t'as juste ce petit espace vertical en plus.
Souvent, je pense qu'on réfléchit pas vraiment à l'écran par rapport à ce qu'on va faire dessus, mais en fait, ouais, le ratio, il a un impact sur les informations qu'on va afficher. Des fois, ça peut peut-être avoir du sens d'avoir des écrans qui ont des ratios non classiques, parce que pour ce qu'on veut faire, c'est mieux.
On se retrouvera dans le prochain épisode pour parler de la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère un peu comme essentiel pour avoir une place de travail loisir de qualité. Qu'est-ce qu'on pense de bureau assis, debout? Toi, tu as une histoire de tapis de marche aussi dont j'aimerais parler. Mm-hmm. Puis on pourra peut-être parler de quelques petites astuces pour s'installer de manière générale dans un endroit confortable.
D'ici là, je rangerai mon bureau. Je pense que je vais juste mettre la photo en bordel là, pour cet épisode. J'assume le bordel.
D'ici là, et blague à part, où est-ce qu'on peut nous retrouver?
Principalement sur notre site internet, tâche avec un s-2-t.fm. Et de là, on a nos liens vers les différents réseaux sociaux. Les épisodes sont sur YouTube aussi, si vous préférez les écouter là. Dans tous les cas, si vous pouvez, mettez des likes, des favoris dans votre application, parce que ça aide un peu. Mais le mieux, c'est si vous connaissez quelqu'un qui sera intéressé par ce sujet, parlez-lui de cet épisode.
À bientôt.
À la prochaine fois.
Je crois que j'ai un carton de... Il me semble que c'est un porte-bouteille que j'ai jamais monté. Et du coup, d'avoir empilé les deux, j'ai pu poser mon écran dessus.